Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Hi, I'm Wallace Roney, and you're listening to Radio France International.
Que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un trompettiste afro-américain qui eut la chance et le malheur d'être adoubé par une immense personnalité. Recevoir les encouragements d'une figure majeure de l'épopée des musiques noires peut en effet accélérer votre destinée, mais également susciter la jalousie et les critiques de vos contemporains. C'est malheureusement ce statut bancal d'héritier qui brûlera les ailes d'un formidable virtuose. Il s'appelait Wallace Roney. Wallace Roney voit le jour le 25 mai 1960 à Philadelphie aux États-Unis. Il va donc grandir à une époque déterminante pour la communauté noire outre-Atlantique. Le soulèvement populaire face à la ségrégation raciale s'accroît chaque jour davantage et l'esprit frondeur des artistes, créateurs et musiciens bouscule la société américaine en pleine ébullition. Une génération entière défie le pouvoir en place, la soul music porte cette contestation et de vaillants porte-paroles se distinguent de la majorité silencieuse. Dans le jazz, un jeune trompettiste fait sensation. Il vient de former un quintet magique composé de solistes émérites qui révolutionne le paysage musical d'alors. Ce trublion bien inspiré n'est autre que Miles Davis, que le petit Wallace Roney découvre grâce aux recommandations discographiques de son père, grand collectionneur de 33 tours vinyle. Cette musique savante et vivifiante à la fois restera longtemps dans l'oreille de Wallace Roney. En entendant ces notes si particulières, ce son détonnant et intrigant, Wallace Roney se découvre une passion pour la trompette et décide à 15 ans de prendre des cours à la Duke Ellington School of the Arts de Washington. We'll be right back. bien qu'il croise la route durant ses études de quelques grands noms du jazz, dont Freddie Hubbard, c'est l'écho sonore de Miles Davis qui continue de résonner dans sa tête. Il ne peut l'imaginer, mais 10 ans plus tard, Wallace Roney sera aux côtés du maître dans un club de Manhattan. Miles Davis est convalescent lorsqu'il réapparaît en public au début des années 80. Il vient de passer 5 ans à se battre contre ses excès, ses addictions, ses dépressions, pour enfin retrouver le goût de remonter sur scène et de jouer. Il parie alors sur la jeune génération pour accompagner son retour en grâce. En 1983, un concert en son honneur est organisé au Bottom Line, un club de Manhattan. Miles Davis assiste à la prestation du jeune Wallace Roney, 23 ans, et se prend d'affection pour ce brillant trompettiste plein de fougue et d'audace. Il deviendra son mentor, son chaperon. Cette bénédiction d'un aîné célébré dans le monde entier fut une épreuve pour Wallace Roney. Il se félicitait de ce parrainage, mais devait désormais trouver sa place et ne pas seulement rester dans l'ombre de son illustre prédécesseur. Il devait à tout prix être dans la lumière pour exister. C'est à Montreux, en Suisse, que l'occasion de briller dans le feu des projecteurs lui sera enfin donnée. Après 8 ans d'apprentissage en compagnie du maestro, il se retrouve propulsé sur le devant de la scène le 8 juillet 1991. Miles Davis avait insisté pour qu'il le seconde lors de ce concert-événement. Il faut dire que ce soir-là, Quincy Jones avait convoqué le Gil Evans Orchestra pour réinterpréter en public les œuvres de Miles Davis enregistrées dans les années 50. Le célèbre trompettiste s'y était toujours refusé, mais après moult tractations, accepta ce challenge à condition que Wallace Roney soit à ses côtés pour pallier à ses éventuelles approximations. Le résultat fut somptueux, quoique périlleux, pour Miles comme pour Wallace Roney. À l'issue de ce concert magistral, Miles Davis offrit sa fameuse trompette rouge à son talentueux filleul. Honoré de cette marque d'affection, Wallace Roney évoqua maintes fois ce geste généreux avec de nombreux musiciens, dont l'ancien batteur de Miles Davis, le regretté Tony Williams.
Tony Williams told me long time ago. Miles gave it to you.
Tony Williams m'avait dit il y a bien longtemps, Miles t'a donné sa trompette parce qu'il savait que tu en serais digne. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. Tout le monde me tombait dessus, mais Miles n'avait pas l'air inquiet de cette situation. Miles connaissait mon parcours et il me répétait sans cesse, continue, ne t'arrête pas, je t'écoute, tu dois poursuivre ta route. Ne les laisse pas décider à ta place, ils ne te laisseront pas jouer à ta façon. Miles n'aimait pas les clones et il existe tant de musiciens qui cherchent à entrer dans la peau de Miles. Là, j'ai compris son message et j'ai fait le choix de ne pas fuir l'influence de Miles, mais de m'en servir pour proposer ma vision des choses, pour exprimer la manière dont j'entends la musique. J'écoute aussi beaucoup Clifford Brown, Kenny Dorham, Johnny Coles, Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Lee Morgan, Booker Little, mais oui, Miles est le musicien qui m'a le plus influencé. C'était un poète à la trompette. Je veux m'inspirer de cela, mais ce n'est pas parce que vous admettez lui devoir énormément que cela vous oblige à reproduire ses solos à la note près. Vous avez plutôt intérêt à utiliser ces éléments qui ont fait de lui un poète du jazz pour développer votre son. N'oubliez pas que lorsque j'ai joué à ses côtés à Montreux, je connaissais déjà Miles Davis depuis 1984. Nous étions sur scène comme un père et son fils, comme Louis Armstrong et Joe Oliver. Mais certes, c'est la première fois que je jouais en public avec Miles. J'avais déjà jamé en privé ou en répétition à ses côtés. Je l'écoutais jouer, j'étais toujours dans un coin à l'observer, mais jamais nous n'avions partagé la même scène ensemble. Chez lui, parfois, il se mettait au piano pour me voir jouer. Mais ce concert à Montreux fut incroyable.
Play piano. This was different. And yes, it was amazing.
Quelques semaines après ce concert à Montreux, Miles Davis disparaissait à l'âge de 65 ans. Son absence fut éprouvante pour nombre de ses anciens colistiers. Herbie Hancock proposa donc de réunir le quintet des années 60 pour une tournée en hommage à Miles Davis. Ron Carter à la basse, Wayne Shorter au saxophone, Tony Williams à la batterie, Herbie Hancock au piano. Et à qui fit-on appel pour remplacer Miles à la trompette? Évidemment, Wallace Roney. L'enjeu était de taille et le nouveau venu dans la famille portait subitement le poids d'un héritage massif. Tout au long de sa vie, il se fit un devoir de perpétuer à sa manière cette tradition musicale léguée par ses aînés.
I think there's a responsibility. I think that's why they allowed me to be there.
J'ai une responsabilité, sinon pourquoi m'aurait-il accepté auprès d'eux? Ils m'ont choisi pour porter la flamme encore plus loin. Ils savaient quel était mon passé jazz. Ils le respectaient, ils m'encourageaient à aller de l'avant. En quelque sorte, ils me transmettaient leur savoir et me faisaient confiance parce qu'ils comprenaient ma manière de concevoir la musique. C'est pourquoi je ne peux minimiser l'influence de Miles Davis, d'Herbie Hancock ou même de Coltrane. Je me suis dit, bon, prenons le meilleur de ce qu'ils ont produit et voyons ce que je peux en tirer. Ils ne m'ont pas transmis la flamme en vain. Je dois utiliser cet héritage et y apporter ma touche personnelle. C'est le plus important, ajouter quelque chose. Jamais je n'ai contesté que j'étais influencé par Miles Davis, mais je me fais un devoir de construire mon identité à partir de ce patrimoine, comme le fit Wayne Shorter avec John Coltrane. Derrière cette personnalité musicale qu'il a façonnée, il y a Coltrane, Charlie Parker, Lee Konitz. Il a su tirer profit de leur expérience pour se forger un style personnel. Woody Shaw fut très influencé par Freddie Hubbard, mais il s'est distingué avec les années. Il n'était pas meilleur que son mentor, il était différent. Si je réussi à créer quelque chose de neuf, de personnel, à partir de ce que Miles m'a légué, j'en serais très heureux. Et si je parvenais à aller encore plus loin dans ma quête musicale, je serais enfin délivré. Ce sont mes buts, aller aussi loin que Miles Davis, Charlie Parker ou Dizzy Gillespie dans l'innovation, mais surtout réussir à produire de la musique de qualité sans me compromettre, en avançant chaque jour davantage.
But my main goal is to try to make some great music and be uncompromising and push the envelope, push my envelope.
Quand on écoute la sonorité de Wallace Roney à la trompette, il est clair que l'influence de Miles Davis a guidé ses choix artistiques et son jeu, et notamment le groupe de Miles Davis dans les années 60 que le petit Wallace Roney avait dû entendre durant sa prime jeunesse.
63, 68. Oh man, that's when he's playing some of the greatest trumpet ever.
Miles n'a jamais aussi bien joué de la trompette qu'à cette époque précise, 1963-1968, et je fus très influencé par son jeu d'alors. Mais si l'on doit analyser son génie plus en profondeur, je dirais qu'il était au top entre 65 et 70. Plus tard, sa sonorité a évolué, plus pour des raisons de santé que par choix stratégique. Mais son esprit était toujours aussi vif. Quand je l'ai rencontré, son influence sur moi fut encore plus grande parce que je pouvais parler avec lui et le voir jouer. Je comprenais ce qu'il voulait développer. D'ailleurs, il me montrait souvent ce qu'il allait jouer sur scène. Mais pour revenir à la période 63-68, je peux vous dire qu'il n'existe pas d'équivalent aujourd'hui.
But that period of trumpet playing between 63 and 68 and innovativeness is unparalleled.
Face à une figure tutélaire aussi importante que celle de Miles Davis, il est évidemment très difficile de se distinguer. Wallace Roney eut beaucoup de mal à se détacher de cette empreinte indélébile, même s'il s'en défendait avec une sincérité confondante.
I feel like my music is everything.
Ma musique intègre toutes les autres, ce qui s'est passé jadis et ce qui se passe aujourd'hui. Je n'exclus aucun style précis. J'essaye d'utiliser l'environnement sonore pour créer, mais le business tente de vous coller des étiquettes sur le dos. Résultat, les critiques de jazz, qui n'écoutent pas vraiment les disques, ont une vision partielle et souvent négative d'un artiste. Le public, faisant plutôt confiance aux commentaires des journaux, ne se déplace plus pour voir les musiciens sur scène. Et pourtant, il existe un vrai public jazz. Ce sont tous ces gens curieux qui écoutent et sont avides de sonorités authentiques. La grosse différence entre Miles et moi, c'est qu'il passait subitement d'un style à un autre. Respect, c'est ce qui lui paraissait juste pour avancer. Je considère pour ma part qu'il ne faut pas sauter du coq à l'âne. Il faut sans cesse ajouter de nouveaux éléments à votre identité musicale. Voilà la différence majeure entre Miles et moi. Oui, il m'a permis d'exister et de développer mon jeu, mais l'histoire dira qui avait la meilleure approche. Je pense tout simplement que nous avons tous les deux choisi la bonne voie. La nôtre. C'est pourquoi je continuerai à innover, à imposer ma patte personnelle dans l'espace musical d'aujourd'hui.
To try to push forward. I'm trying to add the innovations of what happened into what's happening now.
En conversant avec Wallace Roney, nous découvrions son insatisfaction et son amertume face à un système économique et une industrie du disque incapable d'entendre et de saluer la valeur de véritables instrumentistes. Son ton désabusé masquait difficilement son désarroi et sa colère.
I think it's more struggle because back then we had strife.
Je pense qu'il y a plus de difficultés aujourd'hui. Jadis, nous combattions en tant que peuple, mais notre musique nous appartenait. Aujourd'hui, c'est un combat plus subtil. Je joue cette musique depuis des années. Personne ne s'y intéresse. Mais quoi qu'il m'en coûte, je conserverai cette direction musicale. C'est ma vision de ce que je pense être mon identité. Quand des artistes blancs réfléchissent ainsi, ils ont la presse à leurs pieds. Quand il s'agit de moi, il m'écrase. Et pourtant, je suis tout aussi sincère. Ce n'est pas juste. Pourquoi Dave Douglas, qui s'inspire de mon jeu, est-il reconnu? Il peut mettre sur pied des tournées européennes et pendant ce temps-là, moi, je piétine. On imagine toujours aujourd'hui que je ne joue que des standards. J'ai délaissé ce répertoire depuis des années. Et quand je le faisais, c'était bien avant que d'autres ne s'emparent de cette mode des standards. Il y a un racisme évident. La musique est un marché, les décideurs le savent et tirent les ficelles. Ils choisissent celui qui va devenir le meneur d'un mouvement musical. L'histoire du jazz ne les intéresse pas, ils se soucient seulement de prendre bien soin de leur poulain.
Probably don't matter what history is about. Just want to make sure that theirs is taken care of. That's what I think.
En 2004, Wallace Roney fit paraître un album audacieux, expérimental, histoire de clouer le bec à tous ceux qui lui reprochaient de ne jouer que des standards. Son coup de gueule discographique s'appelait Prototype.
Prototype is a reaction to me trying to express.
Prototype était une réaction à ma difficulté d'exprimer mon talent. Je suis musicien depuis bien longtemps et j'ai côtoyé les plus grands. Tous ces géants avaient l'air de vraiment m'apprécier. Ils m'ont demandé de jouer avec eux parce qu'ils aimaient mon jeu et non pas parce que l'industrie du disque m'avait rendu populaire et que cela aurait pu augmenter les ventes de leurs albums. Non, ils m'invitaient parce qu'ils m'appréciaient. Mais le business a tellement dévalorisé ce que je fais que comme autant de Coltrane ou d'Eric Dolphy qu'on surnommait les maîtres de l'anti-jazz, on a dit que j'étais un imitateur à cause de ma relation avec Miles Davis. Par conséquent, le public croyant ce qu'on lui dit ne savait pas trop ce que valait mon jazz jusqu'au jour où j'ai joué avec DJ Logic.
But then I played a gig with DJ Logic. DJ Logic was the after gig thing. And he had more people at his gig.
DJ Logic jouait en deuxième partie de soirée, mais il a réussi à attirer plus de monde à son concert que la tête d'affiche. Les gens de Blue Note, le jazz club, se sont demandé ce qui se passait. J'étais sur scène à ses côtés et je le regardais jouer son jazz, qui n'était pas si éloigné du mien. Disons que je fais moins de compromis, c'est tout. Le public était incroyable. Les fans étaient debout. Certains sont venus me voir après le concert pour me dire « Wallace Roney, on vous adore, vous êtes de la race des géants ». En d'autres mots, ils comprenaient la valeur de ma musique. Ils comprenaient que le fait d'être le protégé de Miles Davis était un honneur et non pas un statut. Ils connaissaient mon histoire, toutes les facettes de ma personnalité que les bien-pensants de l'industrie du disque veulent ruiner. Ces jeunes gens cherchaient à me connaître davantage. Croyez-vous que mes homologues jazzmen m'aient encouragé dans cette voie ? Non, ils étaient jaloux de mon succès devant un public composé de jeunes noirs et de jeunes blancs passionnés de musique. Ces jeunes ne m'ont jamais demandé de définir le style de musique que je leur offrais. Ce sont eux les vrais fans de jazz. Ils connaissaient tous les albums de Miles, de Clifford Brown, de Max Roach, mais aussi des Last Poets, de Public Enemy et toute la culture d'aujourd'hui. Ça, c'est mon public, mes gens, ma tribu.
But they turned out to be the real jazz fans. And I said, well, that's the people. That's my people.
Nous ne l'avons pas encore dit, mais Wallace Roney a été l'une des victimes de cette pandémie qui bouleverse notre quotidien, notre planète et notre 21e siècle. Il nous a quittés le 31 mars 2020 à seulement 59 ans. En brossant le portrait de ce musicien trop souvent mésestimé, nous voulions lui accorder une place de choix dans l'épopée des musiques noires, mais aussi avoir une pensée pour tous ceux que le coronavirus a emportés. Il est fort probable que nous serons amenés à rendre de nouveaux hommages dans les semaines et mois à venir, mais saluer la mémoire de nos chers disparus, c'est aussi les garder en vie, en se souvenant des bons moments et de la joie qu'ils nous ont apportée en musique au fil des décennies. Nathalie Laporte se joint à moi en régie finale pour vous souhaiter une bonne santé, soyez vigilants et merci de nous rester fidèles. Dans quelques instants, le journal.
Life. That's what it is. It's expressing life.
Le jazz, c'est la vie. Le jazz exprime la vie, la beauté, les souffrances, la liberté, les frustrations, les miracles de la vie. Tout ça, c'est le jazz.
Freedom of life and the frustrations and miracles of the mind. That's what jazz is, I think.
Bueno, Roca, háblame, Tamayo.